Bonsoir, bonsoir à tous. Vous écoutez Fréquence Droit sur Aligre FM, l'émission de la Ligue des droits de l'homme, section 10-11. Ce soir, nous abordons le problème du racisme systémique en France. Nos invités, Papa Ndiaye, historien, professeur des universités et directeur général du musée de l'histoire de l'immigration situé au palais de la Porte Dorée, et Gilles Manceron, membre de la Ligue des droits de l'homme, membre aussi du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Racisme systémique, le mot est entré dans le vocabulaire politique courant dans un rapport intitulé « Discrimination et origine, l'urgence d'agir » publié il y a 2 ans. Le défenseur des droits levait le voile sur l'ampleur des discriminations subies par les personnes issues de l'immigration et il faisait état d'un racisme systémique. Discrimination à l'emploi, au logement, à l'éducation, surexposition au contrôle et aux violences policières. Avec le racisme systémique se posent aussi d'autres questions brûlantes. La question du privilège blanc, la question de la laïcité, la question de la place des racisés dans notre société. Nous avons 1 heure pour parler de tous ces sujets, je crains que ce ne soit trop court. Le fil conducteur de cette émission sera « Tu viens d'où toi ?», un spectacle pensé par la compagnie de théâtre Nage et la LDH Paris 10 11. Nage pour « Nous n'abandonnerons jamais l'espoir ». Une troupe 50% blanche, 50% racisée, venant de différents milieux sociaux et de tous âges. La question, comment agir face au racisme structurel et comment s'allier entre blancs et racisés. Nous avons rencontré quelques membres de la troupe, ils et elles, elles surtout, nous ont expliqué le sens de leur travail, nous les entendrons. Mais d'abord, une question de définition, messieurs, une question de définition quant au racisme systémique. De quoi parle-t-on exactement, Papa Ndiaye ?
La notion de racisme systémique, qui est très courante aux États-Unis plus qu'en France, désigne une forme de racisme qui va au-delà des comportements individuels des personnes. Ça permet de penser la question du racisme au-delà de l'appréciation individuelle pour la penser à l'échelle collective et réfléchir sur les mécanismes par lesquels, dans la société, des personnes se trouvent systématiquement en situation d'infériorité, parfois en situation d'avoir des droits réduits, d'avoir un accès plus faible à ce que les économistes appellent les biens rares, les emplois, certaines formations supérieures, etc. Et donc cette notion-là, elle est très utile. Il faut néanmoins la distinguer d'une autre notion qui est apparue aussi ces dernières années de façon plus importante en France, dans le vocabulaire médiatique et politique, qui est celle du racisme d'État.
Alors, quelle est la différence, justement ?
Le racisme d'État fait allusion à des politiques d'État, par lesquelles des institutions d'État ont des politiques ouvertement racistes. De mon point de vue, le racisme d'État fait référence historiquement à des régimes dont les institutions ont été structurées et, d'un point de vue idéologique également, motivé par des formes de racisme. C'est pourquoi, dans le cas français, mon point de vue d'historien, c'est qu'on a affaire à des formes de racisme systémique, y compris dans certaines institutions, mais pas de racisme d'État, parce que la politique officielle de l'État n'est pas une politique raciste, et que, bien et au contraire, elle est même antiraciste, et qu'il y a aussi des institutions d'État, comme la justice, qui peuvent condamner d'autres institutions d'État. Donc le racisme systémique est en quelque sorte à mi-chemin entre le racisme individuel, en quelque sorte, à l'échelle des personnes, et puis le racisme d'État qui a pu exister dans certains pays, dans les pays totalitaires, en Afrique du Sud, ou même aux États-Unis.
Alors qu'est-ce qui fait, Gilles Manceron, que le racisme systémique s'installe dans un pays comme la France ? C'est l'histoire de la colonisation, par exemple ?
Bien entendu. l'histoire de la colonisation est un élément qui pèse beaucoup sur le fonctionnement de la société. C'est quand même plusieurs siècles d'histoire qui remontent même à l'Ancien Régime, puisqu'il y a une première phase coloniale marquée par la pratique de l'esclavage qui touchait peu le territoire français, mais qui a quand même influencé l'Europe et la France. Et puis, il y a eu, à partir du XIXe siècle, un élan colonial beaucoup plus vigoureux qui a eu des conséquences directes sur la société elle-même, les représentations au sein de la société française. Donc, c'est un élément très, très fort qui explique l'existence du racisme structurel ou du racisme systémique, comme on voudra.
Mais alors justement, comment se fait-il que ce racisme systémique perdure alors que la colonisation s'est terminée, l'esclavage s'est oublié, ou c'est oublié
ben, si vous voulez, il y a un élan qui a été lancé, me semble-t-il, par ce qui s'est mis en place au point de vue de l'idéologie de nos concitoyens dans cette société française. Il y a des manières de penser, des manières d'attribuer, par exemple, à la à l'épiderme, à la couleur de l'épiderme, des caractères qui définissent une catégorie raciale. Et souvent, pour ce qui est de la question de la couleur, associée à des caractères péjoratifs.
Nous allons parler de ce spectacle « D'où vient, d'où toi ?» qui sera présenté le samedi 5 mars à 20h et le dimanche 6 mars à 15h à la Maison des Métallos, dans le 11e arrondissement. Quel est le sens de cette démarche? Comment tout a commencé? Eh bien, la réponse à cette question, elle est donnée par Irène, qui est membre de la LDH et qui est aussi comédienne.
Ce qu'on a décidé de faire, c'était d'approcher ce sujet non pas uniquement par l'intellect, avec des échanges super, mais quand même qui restent intellectuels, mais essayer de les attraper par l'émotion ou le cœur. Et de là est venue l'idée du théâtre. Et je voulais une troupe qui faisait le théâtre forum, le théâtre de l'opprimé, qui est un théâtre développé par Augusto Boal dans les favelas de Rio. Et je suis tombée sur Nage, après un certain nombre de recherches, et Fabienne Brugel, qui est la directrice. Et quand je lui en ai parlé, Fabienne a accroché. Et elle a dit, ça me tente. Mais il faut qu'on soit une troupe mixte, c'est-à-dire 50% de blancs, 50% de racisés, des personnes de classe sociale différentes, des jeunes, des retraités, des cheveux gris comme à la LDH, et autrement on ne fait pas, parce que ce sujet-là, il doit être porté par un groupe mixte. On part de nos propres expériences, donc ce n'est pas « Ah, moi j'ai vu une fois… » Non, c'est « Qu'est-ce que moi j'ai vécu ?» en ce qui concerne le privilège blanc et le racisme systémique. Et on a commencé, on a raconté nos histoires. Et au début, c'était un peu délicat parce qu'on ne se connaissait pas. Et bon, pour les racisés, des histoires où elles avaient souffert. Et pour les blancs, comme moi, des histoires où je n'étais pas forcément très fière de la manière dont je m'étais comportée.
L'expérience comme matériau de travail, les membres de la troupe ont travaillé à partir de faits réels. Ce fut le cas des mères de famille qui, à Grenoble, avaient souhaité pouvoir se baigner en maillot couvrant. L'affaire avait défrayé la chronique. On écoute à ce propos une autre des comédiennes que l'on verra début mars à la Maison des Métallos, Noria Ben-Ghori.
On m'a attribué le rôle d'une habitante de Grenoble qui se trouve être une femme musulmane voilée, mère de famille, et qui un jour, avec des femmes qui partage avec elle la même situation, c'est-à-dire celle d'être discriminée dans l'accès aux piscines publiques, pas pour y entrer, mais pour y nager, du coup, décide de se mobiliser pour que les piscines publiques soient plus inclusives. Donc, elles vont être accompagnées par un collectif militant à Grenoble et elles vont essayer de convaincre la mairie. Au départ, c'est vraiment pédagogique, sauf qu'elles vont se retrouver en fait aspirées dans une polémique, mais qui va prendre des proportions telles que ça va aller jusqu'au sommet de l'État. Ça va être couvert par les médias, etc., parce qu'on va les qualifier, on va les disqualifier en les désignant comme étant des extrémistes religieuses, alors qu'en fait, le point de départ, c'était juste qu'elles souhaitaient en fait pouvoir se baigner avec leurs enfants. Et c'est vraiment une scène qui est la plus longue du spectacle et qui est vraiment très, très forte. Cette histoire, elle est à la fois anecdotique, mais en même temps, elle montre toute la monstruosité de notre société. Parce qu'il y a un dessein politique. Ce dessein, c'est de faire entendre aux populations non blanches, qui sont par ailleurs parfois musulmanes, mais même si elles ont d'autres croyances, là n'est pas la question, c'est que ce n'est pas elles qui doivent commander. Elles doivent occuper des places qu'on leur a attribuées, qui sont des places subalternes, où elles doivent faire des boulots déconsidérés, des boulots là où on les attend, là où il y a des besoins et qui sont très faiblement payés. Et ils doivent être aussi constitués une armée de réserve si jamais on a besoin d'eux pour travailler. Mais s'ils sont au chômage, ça nous convient. Et que surtout, il n'est pas une place à part entière de citoyen. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, ne vous croyez pas chez vous.
Noria, membre de la troupe, alors on va évidemment essayer d'expliquer pourquoi la cristallisation de cette affaire. On a entendu les mots de Noria Ben-Ghouri, ce sont des mots très durs. Ils expriment quoi, une douleur ou un désarroi, Gilles Manceron?
Oui, je pense que c'est effectivement une douleur, parce que c'est en même temps, chez ces personnes, le sentiment d'appartenir à une société, de jouer un rôle dans la vie sociale, un rôle économique, un rôle professionnel, et de côtoyer des personnes, mais de ne pas avoir exactement le même statut par rapport à la reconnaissance de leur particularité. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une douleur à partir de ça, une insatisfaction et une perplexité. Du coup, d'où suis-je ? Suis-je vraiment partie prenante de la société qui m'entoure ou bien en suis-je exclu ?
Pape Ndiaye, ces femmes qui se battent pour être on dirait burkini, mais en fait il s'agit de maillot couvrant ou le contraire, cette affaire a fait beaucoup de bruit en France. Qu'est-ce qu'elle dit de la société française et qu'est-ce qu'elle dit du racisme systémique, s'il est question de cela?
Alors, il est question de formes de discrimination et de racisme, sans doute, mais il y a en plus la question là religieuse qui pèse très très lourdement dans les débats français depuis quelques décennies, beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Hein, la question de l'islam et marque extrêmement les débats politiques. C'est un marqueur politique. Elle est omniprésente. Au fond, dans la société, et c'est aussi de cela dont il est question ici. Au-delà de cela, ce dont il s'agit, c'est de savoir comment, pour reprendre une formule canadienne, quels sont les arrangements raisonnables que l'on peut faire dans l'espace public, de manière à ce que les identités individuelles, y compris religieuses, puissent s'exprimer, puissent être visibles, c'est-à-dire puissent être considérées dignement, tout en ne remettant pas en cause le fonctionnement général de la société et puis un certain nombre de règles communes républicaines. Et on voit bien qu'en France, depuis les années 90, il y a des débats extrêmement vigoureux sur la manière de s'arranger, les bonnes manières de s'arranger dans l'espace public. D'ailleurs, l'espace public est très varié. Hein. Être dans une mairie, ça n'est pas comme être dans la rue, par exemple, du point de vue de ce que l'on peut porter ou pas. Bref, c'est une question qui nous occupe et ce dont vous parlez à l'instant, ça n'est qu'une déclinaison parmi beaucoup d'autres de ces débats entre situation et identité particulière et puis règles républicaines communes.
La question des arrangements particuliers dont vous, ou raisonnables dont vous parliez à l'instant, elle aussi, elle est très très controversée et pour certains, elle est considérée, ils sont considérés comme des signes de capitulation devant, devant la religion et devant même parfois un extrémisme religieux, Gilles Manceron.
Oui, c'est le problème de ce débat très français qui s'est développé maintenant depuis 25 ans environ, hein, puisque ça a éclaté à travers une affaire dite de Creil, dans un collège de Creil où... un principal a interdit à des collégiennes de venir avec un foulard sur la tête, alors qu'elles le faisaient depuis plusieurs années. Et l'interdiction est tombée comme ça, et ça a déclenché une polémique dans le monde de l'éducation, hein, parmi les enseignants, et qui s'est poursuivie, reprise par des intellectuels qui ont parlé d'un Munich de l'école républicaine, et qui ont tout de suite... invoquer la question de la religion musulmane, en l'occurrence, et de sa contradiction, en quelque sorte, avec le principe de l'égalité homme-femme. Hein. Donc, ce sont des sujets délicats que nous avons à traiter quand on parle du racisme systémique ou du racisme structurel, parce que cela croise plusieurs problématiques. Et la défense de plusieurs droits. Les droits des femmes, la Ligue des droits de l'homme y est profondément attachée. Hein, et l'égalité homme-femme également. Ce qui pose des problèmes de ce que font les femmes dans la vie sociale, les tâches qui leur sont assignées, etc. La société française est interrogée de ce point de vue-là. D'autres sociétés le sont tout autant. La société antillaise ou la société maghrébine... se posent ou sont confrontés aux mêmes problèmes posés par certaines associations de femmes, etc. Donc, ce sont des problèmes délicats qu'il faut prendre sous leurs différents aspects, mais on est confronté à des logiques structurelles ou systémiques qui aboutissent sans mauvaise intention de la part de ceux qui ont des comportements discriminatoires ou excluants à des interdits qui pose problème du point de vue de l'égalité républicaine.
Nous verrons dans le courant de l'émission et à la fin comment on sort de ces débats qui peuvent être considérés comme délétères. On a quand même évolué dans notre conversation sur la question de la laïcité. Il y a un mot plutôt une autre scène du spectacle qui fait référence à cette notion de laïcité. À l'occasion de la fête de l'Aïd, je vous propose d'écouter Farida Aouissi, qui est comédienne à la compagnie Nage, et ben, elle va nous expliquer tout cela.
C'est la grande question, c'est sur la laïcité. Enfin, aujourd'hui, ça reste encore le débat. Et je me questionne encore aujourd'hui, mais pourquoi cette femme refuse de manger ce couscous de l'Aïd ? Et je suis curieuse. Alors, donc, c'est une rencontre entre un groupe de LDH de banlieue, qui travaillent avec une maison de quartier, ils se rencontrent au cours d'un théâtre forum et ils décident de continuer à travailler ensemble dans le quartier parce que c'est intéressant. Et puis les gens du quartier, la responsable de la maison de quartier dit bah, « c'est super, on vous invite demain, il y a un couscous, venez, c'est génial ». Et donc tout le monde est d'accord et une des femmes de quartier, celle qui fait le couscous, elle dit « c'est super que vous soyez là puisque c'est le couscous de l'Aïd, on adore quand il y a du monde, on aime inviter les gens ». Et là, une des bénévoles de la LDH qui dit « il est hors de question ». Qu'on aille manger le couscous de l'Aïd. Pour elle, ça a une connotation, on est laïque, donc on ne peut pas. Et moi, j'aimerais avoir des réponses. C'est quoi la laïcité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est fait pour vivre ensemble ou je questionne pour de vrai. C'est pour ça que j'adore cette scène. Parce que cette laïcité, ça fait un moment qu'on nous bassine dans tous les sens. On ne sait même plus de quoi on parle. Est-ce qu'ils veulent nous faire dire des choses? Est-ce qu'il y a derrière quelque chose? Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Farida Aouissi, comédienne de la compagnie Nage, elle pose sans doute la bonne question. Qu'est-ce que c'est que la laïcité, finalement, Pape Ndiaye?
Si on pouvait y donner une réponse parfaitement claire et consensuelle, il n'y aurait pas de débat politique en France, mais il y a un débat très vif, il y a des controverses très vives entre ceux, grosso modo, qui estiment que la laïcité, ça n'est pas que la neutralité de l'État vis-à-vis des affaires religieuses, mais c'est aussi une forme de neutralité de la société, c'est-à-dire une neutralité des citoyens, des individus dans l'espace public qui ne doivent montrer aucune attache religieuse trop explicite. Ça, c'est une interprétation rigide, disons, de la laïcité.
Fermée, peut-être.
Fermée, si vous voulez, par contraste avec celles et ceux qui ont une approche plus ouverte et qui insistent sur le fait que la laïcité, c'est d'abord la neutralité de l'État, ça n'est pas la neutralité des personnes dans l'espace public du moment que les signes religieux n'empiètent pas sur la liberté des autres individus, des autres citoyens, du moment aussi que ces signes et leur cohabitation éventuelle ne dégénèrent pas en affrontement particulier, bien entendu. Donc il y a bien un débat très très vif là-dessus, qui remonte d'ailleurs aux origines de la loi de 1905, puisque à cette époque, il y a eu aussi des débats très vifs entre les partisans d'une laïcité plus dure. À l'époque, c'était dirigé contre le catholicisme, hein, bien entendu. Absolument. Et puis ceux qui étaient partisans d'une loi plus ouverte, plus débat, accommodante.
Les débats entre Aristide Briand et d'autres.
Exactement. Et ce sont les partisans d'une approche plus ouverte qui l'ont emporté dans l'ensemble. Mais ce débat, ensuite, s'est éteint d'une certaine façon. Mais il est toujours sous-jacent à l'histoire politique et intellectuelle française depuis le début du XXe siècle. Et il a pris une nouvelle vigueur, disons, depuis une trentaine d'années. Effectivement, aux alentours de 1990, les choses sont reparties dans un contexte qui est d'ailleurs plus largement celui de la chute du mur de Berlin, de la fin de l'URSS et donc de la disparition de la guerre froide et des grands affrontements idéologiques entre le communisme et puis les pays d'économie de marché. L'effondrement du communisme a aussi ouvert la voie à des recompositions politiques et à de nouvelles formes d'affrontements où les idéologies de la guerre froide n'étaient plus centrales et où d'autres questions se sont fait jour, y compris la question de la laïcité qui divise d'ailleurs très profondément les camps politiques, y compris la gauche, par exemple, qui au fond souffre très très gravement de cette division-là.
Gilles Manceron, laïcité fermée, laïcité ouverte. Bon, on comprend que ceux qui vivent leur citoyenneté tout simplement soient un peu perdus. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez que l'étendard de la laïcité est repris parfois par une certaine extrême droite et qu'est-ce qu'on peut y répondre?
Oui, il y a un détournement de l'idée de laïcité par une extrême droite qui utilise ce concept dans un sens xénophobe et islamophobe, hein, contre l'islam, contre les Arabes, contre les musulmans. Donc, ça, c'est un phénomène que l'on constate dans un contexte qui est effectivement celui de la fin du XXe siècle, où il se passe beaucoup de choses qui modifient un peu le paysage idéologique mondial. Et j'ajouterais à ce que Pape Ndiaye a rappelé par rapport à l'effondrement sur l'effondrement du bloc de l'Est, etc., j'ajouterais la déception par rapport au régime issu des indépendances coloniales. 30 ans plus tard, il y a une immense déception qui émane des sociétés qui, pourtant, ont mené une lutte légitime contre la colonisation, mais qui ont ensuite conduit à des régimes extrêmement problématiques. Donc ça, ça fait partie du paysage. Et je pense que ça a joué aussi sur ce moment de la fin du XXe siècle où l'idée de laïcité bascule, à certains égards en tout cas, de la part de certains, dans un sens d'exclusion. C'est un mouvement qui reprend des débats de l'origine autour de la laïcité, parce que comme Pape Ndiaye le rappelait, il y a eu dès le départ des débats. Hein. Le point de vue d'Émile Combes, qui était un point de vue anti-religieux de lutte contre l'Église catholique, de démantèlement de l'Église catholique.
Anticlérical,
et pas seulement contre le rôle politique de l'Église, mais y compris contre l'existence même de l'Église. Enfin, bon, on pourrait l'expliquer. C'est opposé à une autre conception qui était celle, effectivement, de Briand, mais aussi de Jaurès, qui, lui, était attaché à d'autres problématiques de la société qui étaient les droits sociaux, les droits des travailleurs. Et dans la mesure où il était sensibilisé par cette question sur laquelle il voulait que la société avance, eh ben, il a dit qu'il ne faut pas que la querelle laïque, si je puis dire, y fasse obstacle. Et c'est cette orientation qui a prévalu au moment de la loi de 1905, qui était une loi de liberté. Les catholiques sont contre, bon, mais ils comprendront dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, que finalement, voilà, c'était une loi d'apaisement, la loi de 1905. Et il me semble que par rapport à ces débats autour d'une autre religion qui n'était pas très présente en France au début du XXe siècle, mais qui l'est devenue beaucoup plus tard, la religion musulmane, c'est donc la même question qui se pose. Est-ce qu'on veut apaiser ou est-ce qu'on veut un conflit, créer une guerre civile, si je puis dire?
Mais alors comment faire pour éviter cette guerre civile, pour éviter ces déchirements qui rappellent ceux de 1905, mais qui prennent une dimension parfois assez terrible? Pape Ndiaye.
Je ne parlerai pas de guerre civile. Le terme renvoie à des conflits qui, hélas, peuvent exister ou ont existé dans différentes parties du monde. Et donc, on n'en est pas là, fort heureusement, et j'espère bien qu'on n'en arrivera pas là. Bien sûr. Ce dont il s'agit, c'est de controverses très très vives. Ce n'est pas la première fois en France, donc il faut aussi avoir un peu de sang-froid par rapport à ça et prendre les choses avec un peu de distance. On est dans une phase qui est une phase très très compliquée, à coup sûr, avec en particulier le poids de l'extrême droite qui se fait sentir dans l'ensemble du champ politique sur ces questions-là, et des questions qui ont du mal à se frayer un chemin. Mais je pense qu'il va falloir trouver, et c'est possible d'ailleurs, trouver une ligne de crête qui permette l'expression des identités religieuses. C'est vrai, on en parle beaucoup de l'islam, mais c'est vrai aussi de l'ensemble des religions, car si je pouvais ajouter un autre élément de contexte à la fin du XXe siècle, outre la fin de la guerre froide et puis les déceptions post-coloniales, c'est le fait que les trois grandes religions monothéistes, à partir du début des années 80, se sont engagées, ont eu des courants qui se voulaient plus purs, plus radicaux, parfois plus offensifs à l'égard des sociétés civiles. C'est le vrai dans le monde chrétien, avec du côté du protestantisme, l'essor de l'évangélisme. C'est vrai aussi du côté du judaïsme aussi, avec des courants radicaux plus forts. Et c'est vrai évidemment du côté de l'islam. On pourrait penser d'ailleurs à une concomitance avec l'arrivée au pouvoir de Khomeini, l'élection de Jean-Paul II, et puis l'arrivée au pouvoir du Likoud en Israël. Hein, tout ça survient entre 1978 et 1980. Donc du côté des religions, il y a aussi, bien entendu, des dynamiques internes qui ajoutent à la situation que l'on peut vivre aujourd'hui avec, évidemment, ce centrage particulier sur la question de l'islam pour des raisons qui croisent l'ensemble de ce dont on vient de parler. Et donc, il va falloir trouver un chemin, bien entendu. Je suis de ceux qui pensent que c'est possible. N'oublions pas qu'en effet, au début du XXe siècle, la controverse a été d'une très grande violence aussi, hein, aux alentours de 1905. Et puis, finalement, ça s'est apaisé. Vous allez me dire qu'il a fallu aussi la Première Guerre mondiale et le ralliement des prêtres et de l'Église catholique à l'effort de guerre pour que le débat s'apaise de manière définitive. Donc il a fallu un événement absolument catastrophique, bien entendu, mais il me semble qu'un chemin est possible. Il faut de la bonne volonté. Il faut aussi un peu de courage politique, et ça, c'est valable pour tout le monde.
Nos invités dans Fréquence Droit, Pampe Ndiaye, qui est historien et directeur général du musée de l'histoire de l'immigration, et Gilles Manceron, membre de la Ligue des droits de l'homme. Pour beaucoup des comédiens du spectacle que nous verrons début mars, la question essentielle est la capacité de prendre la parole sans être assigné à une position de victime. Pour elle, il s'agit d'un acte militant. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Aza, qui interprète dans ce spectacle une assistante familiale et qui entend prendre la parole, qui exige même de prendre la parole. Elle nous parle de son personnage.
Eh bien, cette scène représente vraiment la complexité un petit peu humaine, de ce qui peut traverser chacun. Cette assistante familiale, elle est représentée, entre guillemets, par une femme qui pense qu'elle n'a pas la place pour s'exprimer. Et en fait, ça la met dans une grande colère, finalement, puisqu'elle se sent victime. Elle est victimisée. Elle estime qu'elle est victimisée dans cette situation, qu'elle a la possibilité de parler et elle est assez affligée finalement que quelqu'un parle à sa place et s'exprime à sa place.
Elle ne veut pas être assignée à cette position de victime, c'est ça ?
Exactement. Elle ne veut pas être assignée à cette position, même si la personne qui amène Ce constat veut juste en fait verbaliser les choses et permettre d'avancer dans la situation. Là, elle le vit personnellement comme une attaque.
Aza, comédienne, elle sera donc dans le spectacle de la compagnie Nage avec la LDH Paris 10-11 dans ce spectacle qui s'appelle « Tu viens d'où toi ?» spectacle qui sera présenté à la Maison des Métallos au début du mois de mars. La possibilité de prendre la parole, soit qu'on se voit interdire de prendre la parole, soit qu'on a intégré l'idée que la parole, ce n'est pas pour nous, c'est un signe de racisme systémique, Gilles Manceron ?
C'est un signe de fonctionnement inégalitaire au sein même de la société. On dit aussi que les femmes, par rapport aux hommes, dans une assemblée quelle qu'elle soit, qu'elle soit associative, syndicale, d'une instance patronale ou autre, ont moins de temps de parole que les hommes. Il y a les Américains ont un terme pour cela. Il y a une monopolisation de la parole du côté des hommes de sexe masculin, quoi, puisqu'il y a une ambiguïté du terme d'homme. Les femmes sont des hommes par certains côtés, d'un certain point de vue, mais les individus masculins jouent un rôle de pouvoir dans une société. Donc, il y a donc des problèmes de prise de parole. Et il y en a aussi pour ce qui nous concerne ici, c'est-à-dire les discriminations relatives à la couleur de peau, à la perception de la race, avec toutes les guillemets possibles, des individus auxquels les individus sont rattachés, voire assignés par les gens qui les regardent et qui les perçoivent d'une certaine façon. Donc il y a des fonctionnements qui influent sur les prises de parole ou le fait de ne pas oser la prendre ou se voir interdire de la prendre, la parole.
Appendiaï, le donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou qui hésitent à la prendre, c'est le combat d'aujourd'hui, c'est le combat de demain.
Bien sûr, donner la parole, avoir accès à la parole. J'ajouterais à cela avoir accès à des formes collectives de parole. Ce ne sont pas simplement les paroles des individus, ce sont aussi les paroles collectives qui peuvent exprimer des revendications, qui peuvent faire état de torts et de méfaits vécus en raison de la couleur de peau ou de toute autre caractéristique. Et c'est bien une des grandes données des changements démocratiques qui sont à l'œuvre dans les sociétés depuis la fin du XXe siècle et qui contribuent à redéfinir la grammaire politique, en quelque sorte, que celle de groupes. Les femmes, par exemple, à partir des années 70, les LGBT, à partir des années 80, de groupes qui expriment des demandes politiques collectivement et qui, pour cela, bien sûr, doivent franchir une marche plus haute que les groupes habituels de la vie politique, syndicale et associative française. Il y a même, à l'extrême, des groupes qui sont particulièrement délégitimés du point de vue de l'accès à la parole. Pensez par exemple à des groupes qui sont vus comme moralement problématiques. Les usagers de drogue, les travailleurs du sexe, les prostituées, les détenus, les anciens détenus. Voilà des personnes qui ont beaucoup de mal à accéder à l'espace public ou même à l'espace politique. Lorsque l'on discutait il y a quelques années dans les enceintes parlementaires d'une loi relative à la pénalisation des clients de travailleurs du sexe, eh bien, les principaux concernés ou les principales concernées, les prostituées elles-mêmes, n'étaient pas auditionnées. Et donc, on ne considérait pas leurs paroles comme légitimes alors qu'elles étaient concernés au premier chef par ce projet de loi. C'est dire si il y a bien toute une gradation dans l'accès à la parole, et celles et ceux qui sont les plus loin de cet accès ne sont pas forcément celles et ceux qui sont discriminés sur l'origine, mais ce sont plutôt des stigmates moraux souvent attachés à des pratiques ou à des professions particulièrement stigmatisées ou particulièrement problématique d'un point de vue moral.
Attaché à une sexualité, attaché à un métier, ce voilà. Dont vous parliez à l'instant.
Ou la question des détenus et des prisons.
Oui, et puis j'ajouterais la question des gens du voyage, par exemple, qui ont une certaine place, un certain rôle professionnel, si je puis dire. C'est des gens qui, pour certains d'entre eux, descendent de personnes présentes dans la société française depuis des siècles, qui ne sont pas des étrangers, des immigrés ou des gens qui viennent d'ailleurs, donc, et qui sont perçus comme extérieurs, comme particuliers. Et le problème, à mon avis, du débat sur la laïcité, qu'il ne faut pas tendre à l'excès, hein. Je suis d'accord, quand j'ai parlé de risque de guerre civile, je le voyais surtout dans le discours de ce qu'on appelle la fachosphère, ou dans le discours de ces... battleurs, voilà, qui s'expriment et qui veulent inciter à une remigration, une expulsion, ou je ne sais trop quoi. Donc, mais au sein du monde qui se réclame de l'idée de laïcité, il y a des vrais débats et qu'il faut entendre et qu'il faut aborder avec beaucoup de patience. Et il y a une différence, me semble-t-il, entre le combat laïque de 1905, qui visait une religion très majoritaire dans la société française, avec la situation actuelle où les cibles, en quelque sorte, sont des groupes minoritaires. Et à ce moment-là, la tendance au compromis, qui est logique quand il s'agit dans une école laïque, de tolérer des communions que la plupart des familles font faire à leurs enfants, des communions solennelles, etc., eh ben, l'instituteur laïque, il a naturellement tendance à dire « Bon, ben, on va faire comme ci, comme ça. » voilà. Tandis que quand ce sont des minorités, on a tendance à dire on ne veut pas les entendre, on ne veut pas les écouter, elles n'ont qu'à se plier, tout le monde a la même enseigne, etc.
Donc vous plaidez sur ces questions pour la discussion, pour le débat, pour...
Il faut un débat dans la société, un débat le plus apaisé possible, dans le monde laïque, parce qu'il y a des vraies divisions qui relèvent du monde, qui se réclament de la laïcité, et il faut les aborder avec calme.
Papandiri ?
Oui, je suis absolument d'accord. C'est en, justement en ne s'embarquant pas, si je puis dire, dans la rhétorique de la guerre civile et en plaçant le débat là où il doit être, c'est-à-dire un débat républicain apaisé et donc démocratique, que l'on pourra avancer et faire échec aux marchands de haine. Pour rebondir sur ce que disait très justement Gilles Manceron à propos de questions de minorité et de majorité, c'est très juste que cette situation d'aujourd'hui, qui est bien différente de celle de la religion chrétienne et particulièrement du catholicisme au début du XXe siècle. Une autre comparaison historique que l'on pourrait faire, c'est celle du judaïsme dans l'Est de la France au début du XIXe siècle, avec des débats, non pas sur la laïcité, la question ne se posait pas en ces termes à cette époque, mais des débats très vifs, disons en Alsace-Lorraine, là où une communauté juive importante était installée, et de savoir si... comment on s'arrangeait avec les règles de l'État et puis des pratiques religieuses qui pouvaient être en tension avec les règles de l'État. Et donc il y a eu des débats absolument passionnants à cette époque sur la place d'une religion minoritaire dans cette partie de l'Est de la France.
Vous écoutez Fréquence Droit sur Radio Aligre. On a parlé de la laïcité. Il y a un mot que j'aimerais qu'on évoque, une notion plus exactement, c'est celle de privilège blanc. La question du privilège blanc sera abordée au cours de cette représentation. Avant que nous en parlions, je vous propose d'écouter Fabienne Brugel et Farida Aouissi. Elles sont membres de la Compagnie Nage. On les écoute.
On a toujours traité de discrimination, hein. Moi, le plus, ce qu'on a rajouté en plus, c'est cette réflexion autour du racisme structurel. Pour moi, on est passé à un niveau supérieur. Et surtout, la prise en compte du privilège blanc. On n'en parlait pas, c'est vrai, dans les années avant. On ne parlait pas de ces questions-là. On disait, oui, les gens racisés subissent, effectivement. Quand tu t'appelles Mohamed, tu subis. Quand tu t'appelles Fatima, tu subis. Mais on n'a pas eu de réflexion autour du privilège blanc. Et je trouve que cette alliance, enfin, ce qui s'est passé avec la LDH, c'est cette réflexion. Et de se dire finalement, je me questionne encore aujourd'hui, mais plus ça va et plus je me dis que pour combattre ça, en tout cas en France, on ne peut pas échapper à l'alliance entre blanc et non-blanc en tout cas.
Le privilège blanc, c'est une notion qui n'est pas acceptée par tout le monde. Elle est parfois violemment rejetée.
Alors, le privilège blanc est souvent, est très violemment rejeté. Alors donc, on risque d'avoir du rejet de blanc sur cette question-là. Et puis, on risque d'avoir du rejet aussi de racisés parce qu'on a pris le parti de l'alliance entre nous en se disant on va essayer de travailler ensemble. Et du coup, au lieu de faire un spectacle par les racisés, pour les racisés, eh bien, on fait un spectacle où il y a la moitié des racisés et la moitié des blancs qui se questionnent sur est-ce que on peut faire alliance ensemble, en fait.
Fabienne Brugel et Farida Aouissi de la compagnie Nage. Privilège blanc, qu'est-ce que c'est que ça ? De quoi s'agit-il, Papandiri ?
C'est une notion qui est apparue très récemment en France, qui a une existence plus ancienne dans le monde anglophone et principalement aux États-Unis, qui, plutôt que de mettre l'accent sur le désavantage qu'il y a à ne pas être blanc, mais retourne le gant, en quelque sorte, en mettant l'accent sur... les privilèges qu'il y a à être blanc dans l'accès aux biens rares, comme je disais précédemment, dans le fait de ne pas être importuné de façon trop régulière par les forces de l'ordre, dans le fait de passer, entre guillemets, dans tout un tas de situations, comme si le fait d'être blanc était neutre, alors que ça n'est pas neutre. Hein. Ce n'est pas une absence de couleur, ça fait partie d'un ensemble de réflexions qu'on appelle les études sur la blanchité, qui essaient de penser la couleur de peau blanche comme une couleur, justement, plutôt que comme un universel. Et donc, c'est un ensemble de réflexions qui, évidemment, a tout son intérêt. Mais il faut aussi remarquer que cette notion pose des difficultés d'un point de vue politique. Elle est violemment rejetée, comme le rappelait à l'instant la personne, la comédienne. Elle pose donc une difficulté au sens où, pour les questions antiracistes, on a besoin d'alliés. On a besoin de rassembler les bonnes volontés. Et c'est donc une notion qui n'aide pas à construire les alliances dont nous avons plus besoin que jamais, me semble-t-il. Et donc, il faut aussi peser dans la diffusion des notions, à la fois leur utilité scientifique, mais aussi leur effectivité politique. Et là, on a en quelque sorte un dilemme à gérer avec cette notion qui n'est pas encore installée politiquement.
J'ai envie de réagir sur la notion d'allié. Parce que autant je comprends ce qu'ont dit les comédiennes à propos de la nécessité de s'inscrire dans un combat commun, quelle que soit sa propre origine et sa propre pigmentation de peau. Il y a un combat commun à mener contre ces stéréotypes, contre ces situations structurelles ou systémiques qui produisent des inégalités. Donc, combat commun, oui, mais le terme d'allié, j'en contesterai peut-être certaines acceptions. Parce que ce n'est pas un combat spécifique à un groupe social constitué, fermé, sauf à considérer que les races telles qu'elles ont été décrites par ceux qui étaient dans une perspective raciste doivent être absolument acceptées dans leur définition par ceux qui en font partie. Sauf à considérer cela, il me semble que c'est un combat qui concerne toute la société et où il n'y a pas un groupe qui mène un combat, comme par exemple à l'époque des indépendances coloniales. Il y avait des colonisés qui menaient un combat pour l'indépendance de leur pays. Et d'autres qui, soit voulaient s'y inscrire, quelles que soient leurs origines, parce qu'ils y résidaient et ils sont considérés comme citoyens aussi, soit ils les soutenaient parce que ça leur semblait un combat légitime. Donc là, la notion d'allié intervient. Tandis qu'aujourd'hui, je me méfie de certains usages du concept d'allié. Voilà.
C'est toute la société qui doit se lever ou se réveiller.
Voilà, c'est toute la société qui est concernée.
On est complètement d'accord sur le fait que l'ensemble de la société doit se mobiliser. Néanmoins, l'histoire des mobilisations depuis plus d'un demi-siècle, elle montre que, du côté, par exemple, du féminisme, il n'est pas absurde qu'il y ait quand même un peu plus de femmes que d'hommes, même s'il s'agit d'un combat à dimension universaliste. Du côté des droits LGBT, des mobilisations qui s'organisent à partir des années 80, surtout, enfin, la question du sida a eu son importance à ce moment-là, il n'est pas absurde que beaucoup de personnes homosexuels en particulier se mobilisent et que donc cette proportion soit plus importante. Et donc il faut aussi reconnaître la réalité des mobilisations et le fait que les individus ne sont pas simplement des êtres pensants flottant dans la vie politique, mais ils sont aussi attachés à des expériences sociales qui font que dans les mouvements antiracistes, on trouvera une proportion un peu plus importante de personnes racisées que de personnes non racisées. Je pense qu'il faut le reconnaître et en même temps garder évidemment de façon tout à fait centrale cette idée que ce qui fait la caractéristique d'un mouvement antiraciste, ça n'est pas la couleur de peau des militants, c'est l'objectif. Et l'objectif, lui, il est susceptible de rassembler toutes les bonnes volontés. Le sociologue Goffman, il ne parlait pas d'alliés, il parlait des initiés. Il disait qu'il y avait des stigmatisés, les personnes qui sont centrales dans les mouvements. Lui, il s'intéressait au mouvement des handicapés dans les années 60 aux États-Unis. Et puis autour, il y avait les initiés, c'est-à-dire des personnes engagées dans le mouvement associatif, bien que n'étant pas directement concernées elles-mêmes dans leur individu par la question sur laquelle elles se mobilisaient. Et donc, ça n'est pas une manière pour moi de faire des distinguos ou d'hiérarchie, c'est simplement la reconnaissance quasiment sociologique des attaches sociales des individus et de ce qui peut les motiver quand ils s'engagent.
Oui, bien évidemment. Dans la défense des droits des travailleurs, qui est née au XIXe siècle autour de l'idée de socialisme, de communisme, etc., eh bien, la part des prolétaires était centrale. Mais ni Marx ni Engels n'en étaient des prolétaires. Donc, ceux qui adhèrent à une cause égalitaire et juste dans une société peuvent être d'origine diverse. Et je me méfie du cloisonnement et de la reprise des concepts racistes dans un sens qui comporterait un certain nombre d'inconvénients. Mais je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Papendiaï.
Nous sommes dans Fréquence Droit, consacré au racisme systémique, mais nous avons abordé bien d'autres sujets. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je voudrais l'un et l'autre vous interroger et vous faire réagir à des mots qui font un peu l'actualité de la période que nous vivons et qui concernent des questions qui fâchent. Première question, par exemple. On nous dit, dans certains milieux, que ces notions de racisme systémique et toutes les interrogations, toutes les discussions que nous venons d'avoir, sont des notions importées des États-Unis, plaquées sur une réalité qui serait celle de la France des Lumières et qui ne serait pas adaptée à cette France des Lumières. Papendiaï.
Oui, c'est très juste. Il y a souvent un procès en américanisation. Qui est d'ailleurs intéressant, puisqu'il y a quelques décennies, c'était plutôt un procès du côté des pays de l'Est, enfin une accusation d'importation d'idéologie qui ne venait pas des États-Unis. Donc il y a aussi une bonne dose ou un bon réveil d'un anti-américanisme qui a, avant la guerre froide, bien entendu, eu son existence dans la vie politique et intellectuelle française. Il faut rappeler à ce sujet que toutes les questions dont nous parlons ne sont pas des importations récentes, même si des notions comme celle de privilège blanc, par exemple, sont venues des États-Unis ces dernières années. Il n'empêche que ces questions-là sont débattues en France depuis un bon siècle. La Première Guerre mondiale et les suites de la Première Guerre mondiale ont engagé des discussions sur la société française, sur la question du racisme, sur la question des discriminations aussi, qui étaient discutées dès les années 20. Je mentionnerai au passage la négritude qui prend son essor au milieu des années 30. Bref, nous avons une histoire proprement française qui ne relève pas d'une importation récente venue des États-Unis ou d'autres régions du monde. Et il me paraît très intéressant d'ailleurs de s'appuyer sur cette histoire-là, qui n'est pas une histoire fermée sur le reste du monde, mais qui a ses dynamiques locales, régionales et nationales propres. Il y a un siècle qu'on discute de ça, et la différence par rapport à il y a un demi-siècle, par exemple, c'est que ces questions-là apparaissent un peu plus nettement dans la vie publique française centrale, en raison aussi de changements sociologiques de la société française. La part des populations non blanches, par exemple, est plus importante qu'elle ne l'était il y a un siècle. C'est donc un changement de degré ou une intensification, mais ça n'est certainement pas une importation récente, artificielle et plaquée sur des réalités nationales qui seraient radicalement différentes.
Et parmi les mots du moment, M-O-T-S, il y a le mot « wokisme » qu'on entend depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pas plus. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles Manceron ?
Ça me semble une construction. Alors, c'est un mot qui n'a pas été inventé par ses détracteurs, le mot « wokisme ». Il a été employé et ça veut dire éveillé, me semble-t-il. Ça veut dire quelqu'un qui est conscient, qui est éveillé, qui est sensibilisé et qui s'enorgueillit de cette lucidité sur les travers de la société woke. Mais ça a été aussi saisi comme un risque mondial même. Certains érigent le wokisme comme le politically correct, political correctness ou autre, comme un risque qui déferle sur le monde, de l'Amérique à l'Europe et ailleurs, et qui nous menace d'un péril nouveau. Et ça, c'est une construction idéologique, me semble-t-il. Hein. Lorsque certains phénomènes se sont produits dans le monde universitaire et ont été... certaines recherches ont été stigmatisées par des courants idéologiques qui voulaient y mettre fin. Là, on a vraiment affaire à une entreprise idéologique réactionnaire.
Pape Ndiaye, le spécialiste des États-Unis que vous êtes, il est responsable du wokisme. Vous vous sentez visé quand on utilise cette expression ?
Beaucoup de gens peuvent se sentir visés. L'expression est utilisée de manière tellement générale aujourd'hui qu'elle ne désigne évidemment plus rien. Il suffit simplement d'être antiraciste ou d'être féministe ou de demander des droits LGBT pour être qualifié de wokiste. Donc l'expression n'a plus de sens. Elle fleurit en ce moment. Il y a un an, on parlait beaucoup des islamo-gauchistes. Tout ça se recouvre, évidemment. Je me souviens même, en 2017, pendant la campagne présidentielle, qu'Emmanuel Macron lui-même avait été qualifié d'islamo-gauchiste. C'est dire si l'expression n'a plus de sens. On parle de wokisme aujourd'hui. Et il faut bien être, évidemment, attentif à ces utilisations de vocabulaire. Elles ne sont pas simplement ridicules et risibles, mais elles montrent aussi que, eh bien, il y a des batailles politiques et idéologiques qu'il ne faut pas forcément laisser à un vocabulaire qui, dans ses formes dévoyées d'aujourd'hui, vient très clairement de l'extrême droite. Et cela témoigne aussi, me semble-t-il, de l'essor intellectuel de l'extrême droite dans la vie politique française.
Un mot de l'antiracisme d'aujourd'hui, comparé à celui d'il y a 20 ans, il y a 20 ans ou 30 ans peut-être, c'était touche pas à mon pote. Les choses ont bien changé. Qu'est-ce qui a changé en fait entre cette façon d'aborder les choses en 1983, au moment des concerts, des grands concerts auxquels nous avons peut-être tous assisté, Gilles Manceron?
Pour m'être impliqué dans, par exemple, la semaine d'éducation contre le racisme, qui date de la fin des années 90, et je travaillais à ce moment-là à la Ligue de l'enseignement, qui est un mouvement d'éducation populaire, qui y était impliqué, et avec d'autres associations. Eh bien, à cette époque-là, il y avait une très grande convergence de l'ensemble des associations antiracistes, que ce soit la LICRA, le MRAP, la LDH et d'autres, SOS Racisme, qui avaient en gros un discours commun sur les différentes variantes du racisme et la nécessité de les combattre toutes. Et puis, des éléments sont intervenus, notamment des éléments de tension au Proche-Orient, des raidissements à l'intérieur des mondes religieux, qu'il s'agisse du christianisme, du judaïsme ou de l'islam, mais c'est évidemment l'islam qui a connu des manifestations les plus violentes et les plus scandaleuses, quand on pense à Daesh, etc. Donc, ça a modifié aussi, ça a eu des conséquences sur les combats antiracistes. Et ça a créé des divisions au sein de mouvements qui étaient très convergents pendant longtemps. Je pense qu'il faut poser l'ensemble de ces problèmes en les isolant, en posant la question du Proche-Orient comme étant un problème politique spécifique et d'autres questions comme devant être analysée, droit des femmes, liberté religieuse, etc., avec beaucoup de sang-froid. C'est dans ce sens-là qu'on peut essayer de progresser, tout en se heurtant à des discours qu'on va qualifier rapidement d'extrême droite, qui, eux, sont des discours de simplification, de schématisation et de désignation d'ennemis, qu'il s'agirait d'expulser, qu'il s'agirait de rejeter, qu'ils seraient considérés comme incompatibles avec la démocratie, etc.
Nous arrivons presque au terme de cette émission. Pape Ndiaye, je l'ai dit, vous êtes directeur général du musée de l'histoire de l'immigration, situé au palais de la Porte Dorée. Quelle sera l'actualité du palais en 2022 ?
À partir du 5 avril, une grande exposition intitulée « Juifs et musulmans », vous voyez qu'on reste dans le sujet, de la France coloniale à aujourd'hui. Donc globalement, du milieu du 19e siècle à aujourd'hui, avec un centrage sur l'Afrique du Nord, puis la France métropolitaine à partir des années 60. C'est donc une grande exposition qui montrera notamment à quel point, d'une part, les mondes juifs et musulmans s'interpénètrent et sont profondément liés l'un à l'autre depuis très longtemps, et puis aussi la manière dont l'État français, l'État colonial en particulier, a joué entre les différentes communautés, les différents statuts, la loi Crémieux, bien sûr, de 1870, et puis ensuite les lois antisémites des années 40, tout cela pour fabriquer aussi des politiques locales coloniales qui ont eu jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs des effets très puissants sur notre société. Donc une très belle et très importante exposition.
Que nous irons voir, comme nous irons tous voir le spectacle au début du mois de mars, le spectacle dont nous allons reparler tout de suite d'ailleurs avec notre président de la section 10-11 de la Ligue des droits de l'homme. Il s'appelle Boudzema Daman. Et on le retrouve tout de suite.
Bonsoir Claude. Tout d'abord, je remercie chaleureusement nos invités, messieurs Pape Ndiaye et Gilles Manseron, mais également Fabienne Brugel, Farida Ouissi, sans oublier Aza, Nouria et Irène. Depuis des mois, la haine, les idées racistes et les discours anti-immigration ont confisqué le débat public. Des chaînes d'infos ont continué au matinal des radios. Ils ont donné le ton de la campagne électorale, jusqu'à ouvrir la voie à une présidente ou un président d'extrême droite. Dans la France de 2022, il est plus que jamais urgent et vital de se mobiliser et d'agir pour réveiller les consciences. L'art et la culture sont des vecteurs puissants de connaissances, de réflexion, d'émotions. Il faut s'en emparer. Notre section, la LDH 10-11, s'y emploie depuis plusieurs années, avec un écran des droits au Majestic Bastille, une fois par mois, les dîners-débats du groupe antiracisme ou la prochaine conférence gesticulée. J'aurais dû m'appeler Aïcha de Nadège de Vaux le samedi 9 avril au point éphémère. Mais notre actualité aujourd'hui, brûlante, c'est la représentation théâtrale intitulée Tu viens d'où, toi, qui a servi de fil conducteur à l'émission que vous venez d'écouter. Alors, venez nombreux, très nombreux, le samedi 5 mars à 20h ou le dimanche 6 mars à 15h à la Maison des Métallos, rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11e. On compte sur vous.
Et on y sera. Le mot de notre président, Boudzema Daman. Je vais vous dire merci. Merci de nous avoir rejoints, Pape Ndiaye, directeur général du musée de l'histoire de l'immigration, et Gilles Manseron, membre de la Ligue des droits de l'homme et aussi membre du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, dont on n'a pas dit grand-chose, mais peut-être qu'en 30 secondes, vous pouvez nous dire...
C'est un groupe d'historiens qui s'est fondé d'enseignants d'histoire, d'historiens, d'universitaires, qui s'est fondé en 2005, au moment de la loi, vous vous en souvenez peut-être, qui décrétait la nécessité d'enseigner les aspects positifs de la colonisation en 2005. Et donc, cette association a continué à travailler et a élargi sa réflexion à toutes les formes d'usage public de l'histoire et parfois qui sont des déformations de l'histoire.
Des usages politiciens souvent, parfois.
Voilà, et on est confronté dans la campagne électorale actuelle tout particulièrement à des usages, à des mésusages de l'histoire, y compris sur la Seconde Guerre mondiale, par exemple.
Gilles Manceron, merci. Pape Ndiaye, merci. Et à bientôt. Fréquence droit, c'est terminé pour aujourd'hui.